Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait.
La voix de David Reitze, le directeur du laboratoire LIGO de Caltech, à l'occasion de la conférence de presse donnée hier devant les journalistes du monde entier. C'est donc un nouveau chapitre de l'astronomie qui s'ouvre avec la première détection directe des ondes gravitationnelles prévue par Albert Einstein il y a un siècle. Nous consacrons l'intégralité de l'émission aujourd'hui à cet événement majeur pour la connaissance de l'univers. Nous avons autour du micro et par téléphone les plus grands spécialistes du sujet pour nous faire comprendre la portée scientifique de cette observation. Et j'attends dès maintenant toutes vos questions sur franceinter.fr, mais également sur les réseaux sociaux, Axel Villard.
Et oui, les auditeurs participent aussi à l'émission. Aurélia, ce matin, nous disait « On comprend qu'il se passe quelque chose d'important, mais ça reste tellement abstrait qu'on a du mal à sortir les cotillons. Alors on va vous aider à comprendre ces ondes gravitationnelles et l'importance de la découverte. Envoyez vos messages sur Twitter, hashtag l'attaque. »
Et en studio avec nous, l'astrophysicienne Françoise Combes, les physiciens Thibaut Damour et Éric Chassandre-Motin, notre confrère Philippe Hénard-Réjos de Ciel et Espace. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue. Et puis nous serons également en ligne depuis Genève avec le physicien Dominique Pessre et à Washington avec le chercheur Fabien Cavalier qui était au cœur de l'événement hier lors de l'annonce de la détection des ondes. C'est parti, on embarque donc tous ensemble pour entrer dans cette nouvelle ère de l'astronomie gravitationnelle.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, Axel, vous nous citiez donc ce tweet ce matin de cette auditrice. Hein, c'est vrai, on comprend ce qui se passe. Il y a quelque chose d'important, mais ça reste tellement abstrait.
C'est dur, hein.
On va demander justement à nos invités de nous raconter avec le plus de clarté possible cette découverte des ondes gravitationnelles. Avant ça, j'aimerais quand même vous demander à tous en quelques mots ce que représente justement l'annonce de cette détection avec la publication parue hier donc dans la revue Physical Review Letters. Alors, pour commencer, est-ce qu'on a Washington en ligne? Est-ce que Fabien Cavalier, vous êtes avec nous? Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay. Alors, vous étiez présent justement hier à la conférence de presse. L'émotion était grande, visiblement, Fabien Cavalier. Hein.
Bah, tout à fait. Il y avait beaucoup de tension avant l'annonce, mais on sentait les gens sereins. On a beaucoup travaillé depuis des années et ces derniers mois, on a vraiment travaillé avec beaucoup d'acharnement et les gens étaient sûrs d'eux, on était heureux, on savait qu'on touchait le but final. Donc à la fois excitation et une très très grande joie.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de participer à un moment très particulier de l'histoire de la physique?
Alors c'est toujours difficile quand on est dans l'instant, mais je crois que oui, on était tous convaincus que c'était un événement qui allait marquer peut-être l'histoire de la science. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on était tous convaincus de ça quand même. Ouais.
Françoise Combes, vous êtes astrophysicienne, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Vous partagez le même enthousiasme?
Oui, tout à fait. Moi, ouais. Je suis vraiment admirative devant cet exploit, parce que je pense que ça fait 26 ans que ces chercheurs, tout ensemble, essaient de le détecter. Et finalement, on se disait, mais ils n'y arriveront jamais, etc. Mais là, tout d'un coup, une découverte avec un signal aussi farouchement beau, en fait, qui ressemble exactement aux prédictions théoriques, on va le voir bientôt. Ouais, ouais. C'est fantastique. Enfin, on ouvre une fenêtre sur l'univers, ouais. Sur des choses qui sont sombres et qu'on ne voit pas autrement. On ne voit pas par le rayonnement électromagnétique.
C'est ce que vous diriez pour témoigner de l'importance de la détection?
Ah oui, oui. Moi, je pense qu'on va sans doute avoir de grosses surprises qui vont arriver dans les quelques années qui viennent.
Ouais. Quel type de surprises?
Justement, on a déjà en radio, par exemple, on a découvert des pulsars, des quasars qu'on ne s'imaginait pas du tout. Ici, on va découvrir des objets bizarres.
Thibaut Damour, vous êtes physicien, théoricien, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques. Vous avez participé aussi directement, finalement, à la détection de ces ondes gravitationnelles avec des publications qui sont sorties dès l'année 2000. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Thibaut Damour, à l'annonce donc de la détection directe de ces ondes?
Ça a été un moment très fort. Je pense que c'est un événement majeur, effectivement, de l'histoire de la science. Aussi important que quand il y a 300 ans Galilée a compris qu'une lunette pouvait devenir un instrument astronomique.
500 ans,
oui, pardon, oui. 1610, voilà. 1610, ouais. Galilée. Et parce que on a vérifié qu'Einstein nous avait dit que l'espace est un milieu élastique. L'espace est comme de la gelée. Mmh. On savait que cette gelée pouvait être tordue, déformée par la présence de matière, mais c'est la première fois que l'on voit les ondes de déformation de la gelée espace-temps se propager en dehors de la source et passer sur Terre. Et c'est aussi, autre découverte, la première fois qu'on a une preuve directe de l'existence de trous noirs, et surtout que deux trous noirs peuvent fusionner. On voit la structure de quand les deux trous noirs se recombinent pour former le trou noir final. Ça, c'est encore plus important. Ça mérite un prix Nobel, surtout pour la découverte des deux trous noirs.
Thibaut Damon, on va tout de suite revoir nos mathématiques ensemble, parce que c'est 400 ans, Galilée, 1610, oui, hein, c'est 1500 ans, je rentre le calcul dans ma tête. Non, c'est 400 ans, on est bien d'accord. Éric Chassan de Motin, vous êtes chargé de recherche au laboratoire CNRS Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris 7, vous êtes responsable de l'équipe LIGO Virgo. Vous êtes un des signataires parmi les 1004 scientifiques qui ont signé justement la publication. C'est un rêve qui est devenu réalité aussi pour vous ?
Oui, donc ça a été déjà un grand moment d'excitation, hein, le jour où on a vu ce signal apparaître sur nos écrans. Et puis ça a été un grand moment hier lors de l'annonce, la satisfaction d'un résultat qui a mis plusieurs mois à être élaboré et à pouvoir être annoncé comme ça a été fait hier.
Vous étiez franchement ému, enfin qu'est-ce que
complètement.
Il y a eu la détection en septembre, qui a été vraiment le moment historique, on pourrait le dire, même plus qu'hier à la limite. Mais quand même, hier c'était l'annonce au monde entier.
Oui, ça a été un grand moment d'émotion. D'une part parce que ça demandait de longues années d'efforts, et c'est un résultat exceptionnel.
Philippe Hénarejos, en tant que journaliste, qu'est-ce que ça représente pour vous, alors, cette date du 11 février 2016 ?
J'ai quand même l'impression que c'est à la fois un aboutissement, parce qu'effectivement, il y a cette découverte et cette belle confirmation de la théorie d'Einstein, et c'est aussi à la fois donc un aboutissement et un nouveau départ, le commencement de quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, avec Galilée qui utilise une lunette. Là, c'est plus une lunette, c'est un autre type d'instrument qui permet de voir autre chose que ce à quoi on était habitué jusque-là, c'est-à-dire les rayonnements électromagnétiques. Là, on va étudier le cosmos à travers d'autres ondes, en quelque sorte.
Oui. Alors, beaucoup de messages déjà de la part des auditeurs sur Twitter également, Axel. On s'en fera l'écho dans quelques instants. On va se retrouver donc pour vous raconter ce que sont ces ondes gravitationnelles, ce qu'elles vont bouleverser justement pour l'astronomie. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de l'air. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. C'est drôle, non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers en éjaste? Si tu penses d'azur aux arbres pour passer l'ennui, tant de têtes de tes nuésures chimères, ce fantôme peuple ta cité, blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité, notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche,
enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Et tes mouvements lancent de majesté. Boeing, Boeing, Boeing. Est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, Boeing, Boeing. Et tes mouvements lancent de majesté. Boeing, Boeing, Boeing. Est-ce la faute de tes passagers indigestes?
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait. Je suis si heureux de pouvoir vous dire ça. Ces ondes gravitationnelles ont été émises par deux trous noirs entrant en collision pour n'en former qu'un seul il y a 1,3 milliard d'années. Elles ont été détectées par LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, qui est à l'heure actuelle l'instrument de mesure le plus précis jamais construit.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Voilà, jour historique pour la physique, 100 ans après la publication de la théorie de la relativité générale, après la fausse alerte de 2014 aussi, hein, avec cette collaboration d'un millier de scientifiques américains, français, italiens et allemands, donc qui apporte une nouvelle preuve expérimentale du génie d'Albert Einstein avec la détection directe d'ondes gravitationnelles. Tête au carré spécial jusqu'à 15h avec mes invités, l'astrophysicienne Françoise Combes, les physiciens Thibaud Damour, Éric Chassan de Motin, Philippe Hénarejos pour Ciel et Espace, et puis en duplex de Washington, Fabien Cavalier, et depuis Genève, dans un instant, le physicien et historien des sciences de Dominique Pestre. Alors, il y a beaucoup de messages des auditeurs. D'abord, je vais vous donner les messages des auditeurs qui doutent, parce qu'évidemment, certains nous disent, comme Didier, est-ce qu'on est absolument certain de cette découverte? Il y a quelques années, on avait annoncé l'existence d'une particule se déplaçant plus vite que la lumière et finalement démentie suite à une erreur de calcul. Je me souviens d'ailleurs, Thibaud Damour, vous étiez avec nous pour parler des neutrinos. On avait organisé une émission spéciale, on était tous très excités, et puis boum, effectivement, quelques semaines après, on s'était aperçu que c'est faux. Est-ce qu'on va nous faire le même coup avec les ondes gravitationnelles? Alors, Thibaud Damour d'abord, et puis Éric Chassan ensuite. Thibaud Damour.
Non, au mieux, Éric, parce que je ne suis pas membre de la collaboration.
Juste par rapport à ce qu'on avait vécu ensemble avec les neutrinos.
Oui, oui, pour les neutrinos, tout le monde avait dit dès le départ que c'était faux. Hein, donc là, en revanche, je ne suis pas dans les secrets de la collaboration, mais à part ce qui fait un peu peur, c'est de savoir si un hacker a planté dans le système le signal. C'est le seul doute que j'ai et je pense qu'Éric va nous rassurer qu'on a bien vérifié qu'aucun hacker n'a pu mettre le signal dans le système.
C'est rassurant qu'un physicien de la qualité de Thibaud Damour n'envisage que cette possibilité.
Il y en a d'autres malheureusement.
Mais écoutez, les autres, on les a regardés très en détail, d'accord? On a passé 5 mois à regarder nos données, à étudier l'état de nos détecteurs au moment des détecteurs LIGO, au moment de la détection de l'événement et on est en mesure d'affirmer que les détecteurs étaient en fonctionnement nominal au moment de l'événement. L'événement est quelque chose d'assez extraordinaire. Ces deux détecteurs sont séparés de 3000 kilomètres.
Donc aux États-Unis en l'occurrence, hein, entre l'État de Washington et celui de la Louisiane.
Exactement. Et on observe un premier signal dans le détecteur de l'État dans le détecteur de Livingstone en Louisiane, et 7 millisecondes ensuite le même signal dans le détecteur du Hanford dans l'État de Washington.
Et là, on peut vraiment superposer des courbes.
Et on peut superposer les courbes.
On les voit partout.
D'accord, est très impressionnant. Ouais. Et c'est pas n'importe quel signal non plus. Ouais. D'accord, c'est un signal très spécifique. Je sais pas si
on va y revenir bien sûr avec vous tout à l'heure. Peut-être avec vous, Fabien Cavalier, pour répondre à Raymond qui nous dit question naïve ou provocation. Qu'est-ce qui vous permet d'être sûr que ce signal n'est pas un bruit, un son naturel quelconque ou un son issu de la tuyauterie mise en place?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que autour de nos interféromètres, on a plusieurs milliers de sondes qui vont mesurer les fluctuations de température, le bruit acoustique, le bruit électromagnétique. Donc finalement, tout ce qui se passe à l'extérieur du détecteur est aussi surveillé. Et on vérifie, et c'est donc le travail dont parlait Eric, un travail très important de vérifier que dans aucun de ces canaux auxiliaires qui contiennent plein de bruits possibles, il y a quelque chose en même temps que l'événement. Et ça, c'est le cas. Donc on est, et c'est le cas sur les deux sites. Donc ça nous renforce vraiment sur l'idée qu'on comprend notre détecteur et que tout se passe correctement au moment de l'événement.
Axel.
French Wedding Cake, c'est son nom sur Twitter, nous dit à quelle vitesse se déplaçait cette onde gravitationnelle. Alors peut-être Eric Chassandre pour répondre à la question.
Oui, donc une onde gravitationnelle, ça c'est une des prédictions de la théorie, se propage à la vitesse de la lumière, d'accord. Et c'est cette chose-là, nos observations sont compatibles avec cette vitesse.
Donc 300 000 km par seconde. Hein, exactement. On peut rappeler la vitesse de la lumière.
Exactement. Ouais.
Une autre question qui nous vient aussi de Twitter, c'est Christophe Régron. Qu'est-ce qu'a mesuré LIGO, le détecteur, donc exactement? Est-ce que c'est une altération d'espace ou une altération de temps? Et je pense que c'est pour Fabien, la réponse, Fabien Cavalier.
Alors, vraiment, ce qu'on mesure avec un interféromètre, c'est la différence de temps de parcours entre les deux bras, et donc qui introduit un déphasage sur la lumière. Alors après, de manière classique, souvent, on représente ça comme une variation de la longueur, une variation de la position des miroirs. On peut le voir de manière équivalente comme une fluctuation de la vitesse de la lumière. Les deux interprétations sont toutes les deux fausses. La seule vraie interprétation est une interprétation de physique relativiste qui prend en compte tous ces effets et dit c'est le temps d'aller-retour qui varie. Donc c'est ni la vitesse ni la longueur. C'est vraiment le temps d'aller-retour qui a changé.
Alors, Philippe Hénarejos, pour prolonger un petit peu les doutes des auditeurs, c'est vrai qu'on nous avait fait le coup aussi des ondes gravitationnelles en 2014. Oui, on nous avait dit en Antarctique avec Bicep 2, ça y est, on les a découvertes ces ondes. Mais c'était pas vrai non plus. Hein.
Et c'était pas vrai non plus, mais faut dire que c'était encore plus difficile à voir, à extraire ce signal-là. Et il y avait quand même beaucoup de doutes, un peu comme l'affaire des neutrinos. Quand même, je rappelle que à ce moment-là, quand ça avait été rendu public. Ça avait été rendu public en disant voilà, on a quand même un résultat qui est complètement incompatible avec tout ce qu'on attendait. Mmh. Alors que là, cette fois, c'est rendu public et on a un résultat qui est compatible avec ce qu'on attendait. C'est-à-dire la forme de la courbe que vous voyez, c'était attendu pour tel événement. Ça cadre parfaitement. Ça cadre parfaitement dans les deux détecteurs. Mmh. Donc on est quand même dans un ensemble plus sécurisé, on va dire.
Ouais. Thibaut Damour, un siècle d'écart entre la prévision d'Einstein et la détection. Donc ça montre la difficulté quand même de cette observation qui va devenir simple maintenant ou pas?
Non, elle reste extrêmement difficile. La première personne, j'aimerais lui rendre hommage, qui a eu la vision qu'il était possible de détecter les ondes gravitationnelles, c'est Joe Weber. Mm-hmm. Et c'était en 1958, c'était un expérimentateur qui a compris parfois, avant certains théoriciens, parce que dans les années 58, il y avait encore des théoriciens, comme Leopold Intfeld, pour ne pas le citer, qui ne croyaient pas à l'existence des ondes gravitationnelles. Joe Weber, lui, en discutant avec des mathématiciens, s'est convaincu que ça existait. Et il a eu le premier, l'idée, c'est observable. On peut, en ayant un cylindre de métal et voir s'il vibre ou pas, le voir. Et il a travaillé pendant plus de 20 ans. Il a même annoncé à la fin avoir détecté les ondes gravitationnelles. Malheureusement, là, il avait été un peu optimiste. Mais en tout cas, il a eu la vision.
On y reviendra d'ailleurs sur la controverse. Hein,
mais il avait une sensibilité déjà remarquable. C'est-à-dire il pouvait détecter une onde d'amplitude 10-16. Ici, on parle d'une onde d'amplitude 10^-21, ce qui est 100 000 fois plus petit. Mais il détectait déjà des choses. Il aurait pu détecter des choses extrêmement petites, ouais. Joe.
Éric Chassandre, pourquoi deux détecteurs, c'était important pour détecter cette onde?
Alors, mais pour la raison que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que ça détermine la confiance qu'on a dans l'événement gravitationnel qu'on observe.
Donc ça peut rassurer nos auditeurs aussi.
Absolument. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de nos données, notre bruit a des fluctuations statistiques et donc par moment on voit des sortes de sursauts de bruit qui ressemblent fort à des ondes gravitationnelles. Et le fait d'avoir deux détecteurs qui observent le même signal dans une quasiment simultanément et nous donne une grande confiance dans le fait que ce signal-là est vraiment une onde gravitationnelle.
Françoise Comte-Thierry demande, quelle est la différence entre les ondes gravitationnelles, les champs gravitationnels, les forces gravitationnelles, en espérant ne pas tout mélanger et ne pas faire preuve de trop d'ignorance? Mais personne n'est ignorant, on se pose tous des questions ici.
Alors justement, la force, c'est ce que Newton avait pensé, la gravité est une force, et c'est ce qu'Einstein a modifié, c'est-à-dire que la gravité n'est plus une force, mais c'est plutôt une déformation de l'espace-temps. Donc, les champs gravitationnels, c'est justement l'espace-temps qui se modifie. Et les ondes, c'est justement pour essayer entre deux masses qui communiquent pour savoir s'il devrait y avoir une attraction entre les deux. Ce sont les ondes qui doivent être le messager. En fait, Newton n'avait pas pensé à ça. Il pensait que les forces avaient peut-être instantanément un effet sur d'une masse à l'autre. Mais il faut bien penser que, comme de même pour l'électromagnétisme, il faut une messager qui sont justement ces ondes gravitationnelles qui font dire, lorsqu'il y a une masse qui varie, ils disent à l'autre masse, attention, je ne suis plus là, il n'y a plus d'attraction, en quelque sorte, pour dire un petit peu...
En tout cas, le 14 septembre dernier, on a assisté à une tempête dans l'espace-temps, comme l'a joliment expliqué hier Kip Thorne, le fondateur de l'Observatoire LIGO.
Jusqu'à aujourd'hui, on avait toujours imaginé l'espace-temps comme quelque chose de lisse, un peu comme la surface d'un océan dans ses jours calmes, quand on dit « la mer est d'huile ». Et on n'avait jamais vu l'océan dans la tempête, bouillonnant avec des vagues qui éclaboussent. Et tout ça a changé le 14 septembre. La collision des deux trous noirs, qui a produit ces ondes gravitationnelles, a créé une tempête violente dans la fabrique de l'espace-temps. Une tempête pendant laquelle le temps s'est ralenti, puis a accéléré, puis a ralenti encore et encore. Une tempête dans laquelle l'espace a été plié dans tous les sens.
Voilà, c'est une jolie image, hein, Françoise Comte.
Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Chacun a son image. Je vois qu'il y a de la gelée.
Oui, alors, c'est ça. Thibaut Damour préfère la gelée de veau, lui. Hein.
Oui, parce que quand vous parlez de vagues sur l'océan, vous voyez l'océan en dehors de vous, donc, alors que la gelée veut dire qu'on est dans l'espace. Il faut bien voir que les ondes, elles nous traversent, et c'est vraiment l'élasticité de l'espace.
C'est ça, c'est le contenant élastique, au fond ? Qu'on a dans cette idée
l'espace
de l'espace-temps.
Lui-même, l'espace lui-même est, comme autrefois ce qu'on appelait l'éther, l'espace lui-même est un milieu élastique. Mmh. Avant, on savait qu'il pouvait être déformé de façon quasi statique quand il y avait des objets qui bougeaient. Là, on a vu les ondes de déformation. Comme si vous avez un objet en métal aussi, vous pouvez le déformer en pressant, mais si vous donnez un coup de marteau, il va y avoir des ondes de vibration et il va émettre un son qui se propage à l'intérieur du métal.
Bon.
Dans le métal espace-temps, les ondes se propagent beaucoup plus vite, c'est-à-dire que c'est un milieu très rigide.
Très bien, bah donc si on vous demande ce soir lors d'un dîner ce que c'est, vous dites que c'est du veau en gelée.
Hein, voilà.
Ce sera simple à comprendre. Axel.
L'image de l'élastique inspire aussi sur Twitter, parce que Christophe nous dit, quand on tire trop sur un élastique, il ne reprend plus sa forme d'origine. Est-ce que ça peut être la même chose pour l'espace-temps dans l'univers ?
Tout à fait. Et il y a même deux niveaux. C'est-à-dire, quand vous avez un élastique, vous avez une limite de plasticité. Quand vous tirez trop, il ne reviendra plus à la forme. Ça, c'est la formation de la surface du trou noir, en fait, qui est une déformation très forte, limite de plasticité. Et quand vous avez un milieu élastique, et si vous tirez encore plus fort, qu'est-ce qui se passe ? Il se déchire. Eh bien, quand la gelée espace-temps se déchire, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Il y a une déchirure d'espace-temps, l'espace-temps disparaît. Il n'y a plus ni espace ni temps. Mais ça, c'est à l'intérieur du trou noir. On n'a pas de renseignements expérimentaux là-dessus. Mmh. On ne voit que la limite juste à la surface des deux trous noirs, avec cette limite de plasticité, de déformation maximale avant la rupture.
Françoise Comte, justement, est-ce que seuls des événements impliquant d'énormes objets comme les trous noirs, justement, peuvent faire osciller bien cette gelée de veau cosmique?
Normalement, toutes les masses oscillent, mais ce qu'on peut détecter, parce que c'est vraiment extrêmement infime, cette déformation, hein, on avait parlé de 10-18 mètres sur une taille de 4 km, donc il n'y a vraiment que les objets très compacts et très massifs qui peuvent le faire. Il faut une tempête comme la fusion de deux trous noirs, mais ça peut être aussi la fusion de deux étoiles à neutrons, donc deux objets compacts. Et là, on apprendra autre chose. On apprendra, par exemple, la nature de la masse, de matériel très dense, nucléaire, par exemple, comment deux étoiles à neutrons se fusionnent pour faire un trou noir.
Ouais. Philippe Hénarejos.
Moi, justement, je veux poser une question. Quant à l'objet même de la découverte, on nous dit que ce sont deux trous noirs relativement massif, autour de 30 masses solaires chacun, donc a priori d'origine stellaire, ce sont des cadavres stellaires qui ont fusionné. C'est ça qu'on observait en premier. L'instrument était encore, en quelque sorte, en phase de test. Et c'est ça qu'on a vu. Enfin, oui, terminé. Il était en train de le mettre en service.
On était opérationnel depuis le 12 septembre. D'accord. Factuellement.
Enfin,
d'accord.
Vous remarquerez que entre le 12 et le 14, il s'est pas écoulé beaucoup de temps.
Non.
Et que
vrai,
donc ouais. Deux jours après être opérationnel, donc
par rapport à un milliard d'années,
vous découvrez deux énormes trous noirs qui rentrent en collision. Donc la question est-ce que ces événements sont finalement très fréquents ou est-ce que vous avez gagné au loto?
Alors, qui veut répondre?
Oui, moi je veux bien, parce qu'en fait, c'est vrai que lorsque j'ai appris ça, 30 masses solaires, chaque trou noir qui va faire un trou noir de 62 masses solaires, ça m'a surpris, parce qu'en fait, pourquoi? On connaît déjà des trous noirs binaires, ils rayonnent en rayons X, ce sont les binaires X, et parce qu'il y a une étoile à côté qui fait tomber du gaz sur le trou noir.
C'est pas un trou noir binaire, il y a un seul trou noir.
Oui, un seul trou noir, pardon, mais on l'appelle un peu binaire. Hein.
Parce qu'il est fait de deux trous noirs.
Il est fait de deux étoiles, un trou noir, et l'autre une étoile peut-être normale, qui donne de la masse qui est accrétée par le trou noir. Donc ça fait un phénomène lumineux, et donc on appelle ça binaire X. Et donc, dans ces binaires X,
oui,
les masses sont de l'ordre de 10 masses solaires. Donc, on avait pris l'habitude qu'en effet, une étoile peut être assez grosse, elle peut être jusqu'à 100, 140 masses solaires, mais lorsqu'elle explose en supernovae, elle va devenir un trou noir de 10 masses solaires. Mais en fait, là, 30 masses solaires, je pense que ça secoue un peu les théoriciens qui ont tout de suite trouvé des tas de cas où, par exemple, la métallicité de l'étoile était assez faible, donc il n'y avait pas beaucoup de vent stellaire, donc elle ne perdait pas beaucoup de masse et on pouvait trouver une masse entre 30 à 100 masses solaires résiduelles après l'explosion de l'étoile. Donc finalement, je pense que c'est déjà la science en mouvement, on a déjà fait des progrès.
Éric Chassant de Motin.
Si je peux ajouter un commentaire, et c'est ce qui illustre la puissance de ces observations, d'accord ? Alors, on peut voir des choses qui n'étaient pas vues avant et découvrir des populations d'objets qu'on ignorait. Voilà.
Et ça, c'est la grande promesse de cette nouvelle astronomie gravitationnelle. Axel ?
Il y a Monsieur C qui s'intéresse au trou noir sur le hashtag LATAC et qui veut savoir comment on a fait pour connaître la distance entre la Terre et ce trou noir après la mesure. Peut-être Eric, oui ?
Oui, si je peux commenter de manière générale sur comment est-ce qu'on comprend et comment on a compris les caractéristiques de la source. Si je peux détailler, le signal a une forme très particulière avec une fréquence d'oscillation qui augmente au cours du temps et en même temps l'amplitude de l'onde augmente. Donc ça fait un signal, je pense que vous nous le ferez entendre ensuite. Et puis ensuite tout se calme. D'accord. Et avec l'évolution de la fréquence au cours du temps, on peut mesurer les masses. On peut mesurer les masses de ces objets grâce aux travaux de Thibaud Damour en particulier. Et avec l'amplitude de l'onde, on peut mesurer la distance. Voilà.
Donc on écoute le son des ondes parce qu'on les a en plus. Elles ont été enregistrées. Voilà.
Qu'est-ce qu'on entend là, c'est pas le bruit de fond, c'est le petit.
Voilà, donc on a entendu le signal plusieurs fois, hein, on l'a entendu répéter trois fois.
Il était sans
c'est juste un bip qu'il fallait entendre. Et donc c'est ce signal-là qu'on a entendu, et ce signal-là, c'est une vibration de l'espace-temps.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous, une avalanche de questions pour parler de la découverte, de la détection de ces ondes gravitationnelles. Et on se retrouve après Lou Doyon.
Let's just pretend for a little while that all there is here and now, and you and I. Radio. Let's turn our backs to all the reasons why we shouldn't let us lay alone in each other's stare. Radio. In the morning lands while the world gets busy. We lay low, we lay low, we lay low. And I know it wasn't wise to look straight back into your eyes, and I don't need you to tell me so. Tell me when it's
Which is the ability to learn from experience, to plan ahead. It includes the capacity to give up immediate temporary benefits for permanent ones.
C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. C'est elle qui nous permet de renoncer aux bénéfices immédiats et temporaires au profit des bénéfices permanents.
Voilà la voix d'Albert Einstein en 1946, 1er juillet 46, hein, Thibaud Damour, dans un contexte particulier, jour de la quatrième explosion atomique dans le Pacifique. On parle donc des ondes gravitationnelles, de leur détection directe, annonce faite donc hier au monde entier, après leur observation en septembre dernier. 1916, donc, c'est la prédiction d'Albert Einstein en juin. En 36, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, Thibaud Damour? Il y a un doute là chez Einstein, hein, puisqu'il il écrit que les ondes n'existent pas.
Oui, mais c'est parce que en 1936, Einstein était le seul à avoir une vision, qui est notre vision actuellement, de l'importance de la théorie de la relativité générale. À l'époque, en 36, les gens disaient, c'est un vieux con, il refuse la mécanique quantique, bon, il a peut-être eu une bonne idée autrefois avec la relativité générale, enfin restreinte, oui, ça va, oui. Général, ça sert à rien, et il se plaint de la physique actuelle. Alors que lui, il était convaincu que cette idée de cet espace-temps courbé, élastique, ça devait nous dire quelque chose de profond sur toute la physique, y compris la physique quantique. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais les ondes gravitationnelles, par exemple, ça n'est prouvé qu'en première approximation. Peut-être que dans la théorie exacte, il n'y aura pas des ondes de ce type-là. Mmh. Et il a essayé de le prouver, mais il avait donc une bonne idée derrière la tête, même si il n'avait pas raison dans ce cas-là. Mais à l'époque, il a discuté, un peu plus tard, il a discuté avec Madame Choquet, Choquet-Brouillard, qui en 1952 a prouvé mathématiquement les ondes gravitationnelles. Et quand elle est venue à Princeton, en 1952, j'avais un an, et Einstein a discuté longuement avec Madame Choquet pour qu'elle lui explique ses études mathématiques sur les ondes gravitationnelles.
Et Madame Choquet est toujours en vie, Françoise.
Oui, elle a 92 ans.
Elle était avec vous hier, Thibaud Damour, c'est ça?
Elle vient tous les jeudis déjeuner avec nous, discuter, cerveau impec.
Il faut signaler que c'était la première femme à l'Académie des sciences, quand même.
Absolument. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit hier, alors, au cours de cette journée historique?
Elle était émue, après. Elle était émue. Elle aurait préféré que les Américains citent un peu plus tous les travaux des théoriciens européens et français en particulier. Ouais. Mais elle restait émue, elle est repartie chez elle.
Ouais. Fabien Cavalier d'ailleurs, puisque vous étiez à Washington, est-ce que vous avez regretté également que les États-Unis tirent beaucoup la couverture à eux quand même hier?
On n'a pas été surpris. C'est vrai que la détection a été faite avec leurs deux détecteurs. C'est les détecteurs LIGO qui ont vu les événements. Par contre, il faut rappeler que l'analyse des données, depuis 2007, est faite en commun par LIGO et Virgo. Donc vraiment, tous les chercheurs de Virgo sont pleinement associés et ont une contribution importante à cette découverte.
Ouais.
Je dirais que le biais, que ce soit les détecteurs LIGO qui aient vu le signal, a forcément tiré dans leur direction.
Alors, on va mettre les choses au clair. LIGO, donc aux États-Unis, Virgo en Italie, Éric Chassin de Motin.
Absolument, c'est donc la collaboration dans laquelle moi et Fabien travaillons. Il s'agit aussi d'un détecteur. Un détecteur de 3 km, semblable, similaire à celui de LIGO. Mm-hmm. Malheureusement, Virgo n'est pas en fonctionnement maintenant.
Fin 2016,
fin 2016, ça, hein. Exactement.
Voilà.
Donc
là, il y aura de belles découvertes aussi, avec l'association des deux.
Voilà. Ouais. Donc, on attend avec une grande impatience le retour, le démarrage.
Ouais. Bonjour Dominique Pestre. Ravi de vous retrouver, physicien, historien des sciences, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes avec nous en ligne depuis Genève. Un point d'histoire avec vous, Dominique Pestre, sur la controverse autour des ondes gravitationnelles dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Ben, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y avait Joe Weber qui avait proposé, qui a travaillé pendant 20 ans sur cette question. Et au début des années 70, j'ai plus la date exacte, il publie un article comme quoi il dit avoir détecté des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est intéressant comme histoire parce qu'elle a beaucoup de points communs avec ceux qui ont été évoqués hier soir, aujourd'hui, à l'instant dans votre émission. Si vous voulez, la première chose qui frappe lorsqu'il publie ça, c'est que, au fond, le milieu physicien répond que si on croit à la théorie de la relativité générale, ce qui à l'époque n'est pas trop problématique, alors Weber ne peut pas avoir découvert les ondes gravitationnelles parce que la sensibilité de son appareil, qui est une machine assez extraordinaire, qui n'est pas du tout sur des affaires laser, bien évidemment, que cette machine n'a pas la sensibilité suffisante. Et d'une certaine façon, il est renvoyé, je dirais, à sa solitude. Il l'énonce. Il dit qu'il l'a découvert, il n'est pas cru, et au fond, ça s'arrête là. Donc à ce moment-là, ce que va faire Joe Weber, il va faire à peu près ce qu'on vous a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va installer deux détecteurs. Un au nord, aux États-Unis, et il en installe un autre en Amérique latine, qui est le même, et il travaille sur la possibilité de synchroniser les signaux. Exactement comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et il fait ce travail et il publie un article en disant que quand on les synchronise, il a un certain nombre de signaux qui sont concomitants. Et donc ça prouve bien qu'il y a un phénomène qui est d'une nature extragalactique très certainement, en tous les cas qui n'est pas un phénomène local, qui ne tient pas à ces appareillages, qui n'est pas une perturbation locale, on va dire. Et donc, quand il publie cet article, là, il déclenche soudainement l'intérêt. Parce que si effectivement il a fait ça, alors il y a probablement un phénomène extrêmement intéressant derrière. Peut-être que ce ne sont pas des ondes gravitationnelles, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant. Et à ce moment-là, dans la foulée, vous avez 4 équipes qui se lancent dans ce travail. Alors évidemment, pour se lancer dans ce travail, c'est un peu long. Faut mettre au point, chacun met au point ses détecteurs. Donc ça prend un certain temps. Et la plupart et ces équipes dans l'ensemble vont dire que, d'après leur détecteur, elles ne détectent pas le signal du type de celui que Joe Weber pense avoir détecté. Donc à ce moment-là, c'est à nouveau la situation est à nouveau bloquée d'une certaine façon. Vous avez une majorité, c'est évident, une grosse majorité, qui pense que Weber a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont a travaillé Weber. Et donc il va y avoir toute une série de débats sur par exemple les logiciels qui servent à pénétrer dans le bruit de fond, sur la nature des isolations qu'il a construites, parce qu'il s'agit d'une très grosse barre métallique qu'il fait. Qui va enregistrer le passage des ondes, et donc est-ce qu'elle est bien isolée des sols, est-ce que tout ça va être discuté. On essaiera même d'inventer une sorte d'équivalent électromagnétique des ondes gravitationnelles pour essayer de les envoyer sur les 5 détecteurs et de voir lesquels réagissent mieux. Bon, dans l'ensemble, Weber restera convaincu. Les autres ne le seront pas, et l'argument en dernière instance qui est que théoriquement c'est pas possible parce que on est vraiment trop loin en termes de sensibilité va emporter la vie, et au fond disons, la notoriété de Weber va disparaître dans cette dans ce qui est considéré comme une grave erreur qu'il aurait commise.
Voilà. Merci beaucoup Dominique Pestre. On voit l'histoire mouvementée autour de ces ondes gravitationnelles. Mais c'est quand même énormément de travail. C'est quoi, 25 ans de boulot, Éric Chassant-de-Motin? On l'a dit, hein, c'est 1000 scientifiques qui travaillent, en tout cas qui ont travaillé à cette détection directe.
Oui, ça fait partie des grandes collaborations internationales de physique. Donc oui, c'est beaucoup de monde.
Oui.
C'est des gros moyens et c'est
et des années de patience, des années aussi, de patience. Hein, avant d'y arriver.
Exactement.
Allez, on va consacrer le dernier quart d'heure aux questions des auditeurs qui sont extrêmement nombreuses. Axel, on y va.
Faraday sur Twitter, oui, Faraday nous écoute. Il dit, ne pourrait-on pas construire un détecteur dans l'espace pour s'affranchir des parasites? C'est une idée qui est en marche, Philippe Naréjos, d'ailleurs.
Alors c'est prévu, il y a déjà un satellite, pour ainsi dire, qui est dans l'espace, qui a été lancé pour démontrer, c'est un satellite technologique, il ne fait pas d'observation scientifique, mais il est là pour voir si on va arriver à faire ce genre de satellite dans l'espace. Mmh. À l'issue de cette mission, en théorie, si ça marche, en 2034, l'Agence spatiale européenne devrait lancer un autre satellite qui, lui, serait dédié à l'observation, qui serait, lui aussi, un interféromètre spatial pour détecter aussi les ondes gravitationnelles et qui viendrait en complément des détecteurs qui sont sur Terre.
Françoise Combe.
Oui, en fait, cet interféromètre spatial va permettre d'obtenir des ondes de beaucoup plus grande longueur d'onde, de plus basse fréquence, et donc augmenter la masse des trous noirs qu'on va pouvoir détecter. Parce que pour l'instant, au sol, on peut détecter des trous noirs de masse stellaire, donc jusqu'à 30 sans masse stellaire.
C'est cela qui sera complémentaire, d'ailleurs.
Et voilà, donc là, c'est vraiment complémentaire. On va pouvoir trouver des trous noirs supermassifs, tels qu'il y a dans chaque noyau de galaxie.
C'est ça.
Le début, les petites masses, ensuite, ce sera autre chose, un autre instrument. Mais là, c'est vraiment formidable parce qu'on va pouvoir accéder à la formation des galaxies, comment les galaxies se forment, comment les trous noirs fusionnent à l'intérieur lorsqu'il y a fusion de galaxies.
Ouais. Thibaut Damour, est-ce qu'au fond, cette détection directe aussi, c'est la preuve de l'existence des trous noirs? Est-ce que c'est pas aussi ça l'importance au fond
oui,
de cette annonce?
C'est même la plus grande importance, parce que contrairement à ce que les auditeurs...
Parce que ça, on l'oublie un peu, finalement, dans l'annonce en elle-même.
On a souvent entendu dire un trou noir par-ci, un trou noir par-là. Les preuves existantes à ce jour-ci convainquaient les scientifiques, parce que les scientifiques ont tendance à croire à la théorie, etc. Donc, mais elles restaient indirectes. Elles ne sondaient pas directement ce qui se passe à la surface du trou noir, ce qui définit le trou noir, c'est-à-dire cette surface d'où la lumière ne peut pas sortir. Alors que là, pour la première fois, on voit par le phénomène de fusion des deux surfaces de trou noir, on voit en fait des modes de vibration du trou noir qui est formé par la fusion des deux trous noirs. Vous pouvez penser à deux bulles de savon qui, quand elles se touchent, fusionnent pour former une plus grosse bulle qui va vibrer un peu. Et en fait, il semble, je ne sais pas d'ailleurs à quel degré de confiance, on puisse affirmer qu'on a vu les modes de vibration du trou noir formé, ce qui s'appelle les quasi-normal modes. Éric, est-ce que c'est exact qu'il y a une preuve directe qu'on a vu le premier mode de vibration d'un trou noir formé?
Malheureusement, non. Non, parce que il est masqué par le bruit sur la. Donc ça, c'est un signal que, pour préciser pour les auditeurs, qu'on verrait en fin de notre signal, celui qu'on a entendu tout à l'heure, et cette partie du signal est masquée par le bruit et on ne voit pas les modes auxquels.
Mais est-ce qu'on voit le premier mode? Parce que là, on a l'impression qu'on le voit.
Non.
Il est dans le bruit.
Ok, très bien. Petite discussion de spécialistes, petite parenthèse refermée. Juste une question sur la somme des deux trous noirs, justement, hein, qui n'en font qu'un. Donc, pourquoi est-ce qu'on a perdu, justement, de la masse à l'occasion de cette fusion?
Parce qu'on a émis des ondes gravitationnelles.
Donc, c'est ça, la masse se retrouve dans les ondes.
Les ondes gravitationnelles emportent de l'énergie. Ça a d'ailleurs été une question physique très importante. Je voudrais juste commenter sur les ordres de grandeur ici, parce que c'est intéressant pour nos auditeurs. Si on fait un simple calcul mathématique, on voit qu'on a perdu trois masses solaires, trois fois la masse du solaire, soleil dans cette coalescence. C'est une quantité énorme d'énergie.
Oui.
C'est une quantité énorme pour prendre une mesure. En fait, c'est plus intéressant de parler de luminosité, c'est-à-dire de quantité d'énergie émise par unité de temps. Et pendant les 200 millisecondes du signal, cette source-là a émis autant d'énergie que la totalité des étoiles dans l'univers.
Ouais. Philippe Hénard.
Alors moi, ça me pose une question, parce que cette énergie-là, si elle était sous forme de lumière comme ça, si on prenait une telle énergie dans la tête, si on était juste à côté du trou noir, on sait que ça serait dévastateur. Sous forme d'énergie gravitationnelle, est-ce que ce serait dangereux? Est-ce que si on était à proximité, alors je sais pas quelle proximité on pourrait être, dans la même galaxie ou plus près que ça, est-ce que cette énergie gravitationnelle serait dangereuse?
À mon avis, peut-être que Thibault pourra commenter mieux que je pourrais le faire.
Est-ce que notre déformation,
à mon avis, il n'y a pas de...
En fait, même très près, ouais, même si on était juste là, quand l'onde se forme, la déformation n'est pas très grande, elle est de 3%. Donc, mais on aurait vu qu'on est grandi dans une direction de 3% et rétréci dans les 3% très rapidement. Donc c'est visible, mais c'est même pas énorme très près. Ouais.
D'accord.
Mais la quantité d'énergie, encore une fois, c'est... Faisons un petit truc. E égale MC2 d'Einstein joue ici aussi un rôle au passage. Ce bon vieil Albert.
On pouvait le signaler quand même. Axel.
Eric qui se demande si on sera un jour capable de détecter les ondes gravitationnelles venues du Big Bang. Peut-être François Scott.
Oui, je pense, mais pas par ces instruments-là, mais je pense par la polarisation du fond cosmique qui vient du Big Bang, le fond micro-ondes. Et donc, justement, La nouvelle manquée en 2014, qui était de Bicep 2, qui avait soi-disant détecté cette polarisation, donc les ondes gravitationnelles, mais finalement ils avaient mal soustrait la poussière et qui pouvait faire un signal un peu comparable. Mais je pense que les expériences qui vont détecter le fond micro-ondes et la polarisation vont pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles du Big Bang.
Et d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait détecter les ondes gravitationnelles? Quelle est la suite, je dirais, dans un futur à 20 ans?
Ben justement, je pense qu'il faut aller de plus en plus massif, donc aller dans l'espace, mais aussi, il faut peut-être signaler le réseau des pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent avec une milliseconde autour d'elles-mêmes et qui envoient des pulses d'émission. Et on sait les chronométrer à 10-13, 10-14 près. Et donc, ces pulsars sont disposés autour de nous avec des années-lumière. Et on va pouvoir, grâce à un chronométrage très précis de ces pulsars, détecter les ondes gravitationnelles qui ont comme longueur d'onde, 10 années-lumière, par exemple. Et donc des trous noirs très, très massifs.
Éric Chassant-de-Motin.
Oui, j'aimerais ajouter la question telle qu'elle est formulée. On a l'impression qu'on a fini, là, maintenant, et que les choses sont faites, on va passer à autre chose. Non, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle astronomie. C'est le début de l'astronomie gravitationnelle. On va faire des observations, et ces observations vont apporter des informations nouvelles.
Pour prendre une image, on évoquait la lunette de Galilée, qui avait transformé justement l'observation du ciel. Là, c'est la même chose à une dimension gigantesque. C'est-à-dire qu'on a changé de lunette, au fond?
Oui, en quelque sorte, oui. Alors, on est en 2016, on utilise les instruments que nous offre la technologie aujourd'hui. Donc oui, effectivement, on peut parler de nouvelles lunettes de Galilée.
Ouais. Philippe?
Oui, moi j'ai une autre question. Si au bout de 2 jours de fonctionnement, vous avez 2 gros trous noirs comme ça qui se télescopent, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est très fréquent? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, détections entre-temps?
Il paraît que c'est déjà dans les cartons.
Parce que
des bruits qui courent.
Que, vous voyez, si on joue comme ça, au bout de deux jours, on obtient déjà quelque chose d'éclatant. Est-ce que sur les jours qui ont suivi, il n'y avait pas autre chose?
Allez, on va aller passer à la question. On va vous torturer, Éric Chassant-de-Motin. Tiens, Fabien Cavalier, vous pouvez répondre si vous voulez à cette question. En direct de Washington.
Alors, honnêtement, on a aujourd'hui ce qu'on dit, on a un événement pour un mois de données à peu près. On a maintenant 4 mois de données disponibles. On a fini de travailler, on a fini la prise de données en janvier de cette année. L'analyse est en cours. On voit des choses intéressantes. Ça demande, comme d'habitude, beaucoup de travail pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Je pense qu'au printemps, on pourra annoncer les résultats sur les 4 mois de données. Donc le taux de ce type d'événement va gagner en précision. C'est sûr que 1 sur 1 mois, ça peut être 1 sur 4 mois, on ne sait pas trop encore.
Bon, et là, vous avez découvert quoi alors, Fabien Cavalier? Qu'est-ce que vous avez découvert qu'on ne sait pas encore?
On n'a rien découvert.
Ah, le menteur!
Nous ne parlerons qu'en présence de nos avocats.
Non, mais c'est toujours la même chose. C'est un détecteur, même les détecteurs précédents, là, Igo Virgo, des événements, on en a beaucoup, on en a souvent. Mais il faut les passer dans un crible pour être sûr que ce n'est pas du bruit. Donc, ce n'est pas juste 0 ou 1, c'est un travail de fond pour comprendre que les événements, plus particuliers, ils sont vraiment dus à un signal astrophysique et pas à des erreurs instrumentales. On a rappelé l'histoire de Jove Weber. Je pense que notre communauté a été quand même très traumatisée par l'histoire de Jove Weber et ne veut pas retomber dans les mêmes travers ou dans les mêmes problèmes. Ce qui est important de signaler, c'est qu'aujourd'hui, notre détecteur il est à peu près à un facteur, on va l'améliorer d'un facteur 3 à peu près. Il sera 3 fois plus sensible dans les années qui viennent. Et gagner ce facteur 3, ça veut dire qu'on verra un volume d'univers qui sera 27 fois plus grand. Donc, si on reste avec des taux de 1 par mois, comme on a eu pour le premier mois, on peut espérer arriver à un événement par semaine à peu près, ou peut-être plus, dans les quelques années qui viennent. Donc vraiment, c'est pas la fin de l'histoire. On a vu quelque chose pour la première fois, mais on va être encore meilleur dans les années qui viennent. On va rajouter Virgo, qui va permettre de positionner la source dans le ciel, beaucoup plus précisément, grâce à la triangulation. Et donc, on va rentrer dans l'ère de l'astronomie gravitationnelle. Donc, c'est vraiment, on a fermé le chapitre qui a mené à la première détection, et on ouvre le chapitre de l'astronomie gravitationnelle.
Allez, on va réécouter les ondes gravitationnelles, justement. C'était hier, à l'occasion de la conférence de presse, dans la voix de Gabriela González, la porte-parole de LIGO.
Nous pouvons entendre les ondes gravitationnelles, nous pouvons entendre l'univers. C'est une des choses extraordinaires à propos de cette découverte. Nous n'allons plus simplement voir l'univers, nous allons aussi l'entendre. Je vais maintenant vous faire écouter le son de ces ondes gravitationnelles, mais le son est très bref, juste un gazouillis. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons un peu ralenti la fréquence du son, mais c'est toujours le vrai signal. Vous avez entendu le quick ? Il y a un bruit sourd, puis un gazouillis dans le son. Écoutez encore une fois. C'était ce gazouillis de l'univers que nous recherchions.
Voilà, Françoise Combes, joli gazouillis.
Oui, c'est formidable.
Et qui, voilà. et ben c'est ce tchoup qui nous fait basculer dans une nouvelle ère de la physique. Et maintenant, on entend, c'est ce qu'elle expliquait très bien, Madame González, qui pourrait d'ailleurs recevoir un prix Nobel. Hein, elle pourrait faire partie...
Pas elle, tout de même.
Ah ben, elle est citée comme faisant partie des gens qui pourraient recevoir le Nobel, non ?
C'est important.
Thibaut Damour, non ?
Je ne commente pas.
Bon, il y a plein de noms qui décident. Bon, bref, peu importe. Axel.
Sur Twitter, on a des auditeurs qui vont très loin et qui disent « Est-ce qu'il y aura un jour des applications concrètes à la découverte des ondes gravitationnelles ?» Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Éric Chassin-Motin.
Donc, c'est l'éternelle question de l'application des recherches fondamentales. C'est d'abord un apport important à la connaissance humaine. Je crois qu'il faut souligner ça. Ensuite, les instruments qu'on a développés sont des instruments de haute technologie. Il y a des technologies qui ont été développées pour l'occasion. En particulier, je crois qu'il faut souligner l'importance des apports de la France, là, en particulier dans la fabrication des miroirs. On a un laboratoire qui est à la pointe dans ce domaine en France, le laboratoire des matériaux avancés à Lyon, et qui a fait les miroirs de LIGO.
Françoise Combes, Yves demande, est-ce que cette découverte va nous en apprendre davantage sur la masse manquante de l'univers, la matière noire ?
Je ne pense pas, parce que là, il s'agit vraiment d'objets très compacts, sauf si les trous noirs primordiaux étaient partie matière noire. Enfin, c'est pas du tout là vers quoi on se trouve actuellement. Hein. Donc, je pense qu'en effet, ça ne sera pas...
Allez, Thibaut Desmond, pour terminer...
Parmi les autres contributions expérimentales de la France, j'aimerais rappeler que Alain Briey et son groupe a commencé à travailler en 1980, Et il a contribué quelques éléments clés, comme la stabilisation des lasers par injection.
Il est cité pour le Nobel, lui, pour le coup.
Voilà, moi j'aimerais le citer dans mon trio, j'aimerais le citer.
J'aimerais me joindre à Thibaut, j'aimerais rendre hommage à Alain, c'est un des pères fondateurs de Virgo, et aussi Adalberto Giazzotto, tous les deux ont porté le projet Virgo dès le départ. Oui. Voilà, merci Alain.
Bon, il y a un Nobel, il pourra arriver très très vite, comme le boson de Higgs ou pas à votre avis ?
Il n'arrivera pas en tout cas en décembre prochain, ça c'est clair.
Mais est-ce qu'il pourra arriver plus vite que d'habitude ? En tout cas, il y a un Nobel à la clé, ça c'est sûr.
Il y a un Nobel à la clé, il pourrait arriver en 2017, oui. Mais il pourrait aussi arriver en 2019 ou après, je veux dire.
Je ne me fais pas de pronostic là-dessus, c'est pas de mon sort.
Et il faudra se le partager, parce qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Merci infiniment pour vos explications, j'espère qu'on a été le plus clair possible. Thibaut Damour, il y a une BD qui va sortir, qui s'appelle Le Monde Quantique, avec Mathieu Burnia.
Le mystère du monde quantique.
Ce sera chez Dargo en mars, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Françoise Combes d'être venue. Ciel et espace, Philippe Narejos, évidemment vous parlez de la détection
absolument,
des ondes.
Sur notre site, on suit ça de très près et dans les prochaines éditions, évidemment.
Merci Fabien Cavalier, en direct de Washington.
Merci à vous.
Merci à vous. Bon retour en France, Eric Chassand-Motin. Merci également pour vos explications. À lundi, Axel.
Mathieu, si je peux finir avec un petit tweet d'auditeur, il dit « Finalement, on a détecté un tweet gravitationnel réaction au son qu'on a entendu tout à l'heure. »
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait.